With TV, you can't even think of something different. With movie, you can.
Sento dentro di me una strana agitazione.
ฉันจะพูดภาษาที่เกียร์เลยเกียร์ที่บอลตัวช่วยกี่เด็กกี้ซุปไปตะกร้อยเด็กกี้เกียร์ก็บินมีตำหนิไม่ค่อยจะสมบูรณ์เนี่ย
Radio Grenouille en direct du Festival International du Documentaire, 19e édition. C'est la clôture ce soir. Le palmarès sera dévoilé à 20h30. Il y aura également la projection du film de clôture. Ça sera Lettre à la prison de Marc Scialom. Voilà. Et après, une fête à l'espace éphémère dans lequel il y aura des DJ fameux, je crois, puisqu'il s'agit de James Taylor, de Pop Tree et Humantronic. En attendant, un dernier magazine en direct du Théâtre de la Criée. Donc, nous recevons ce soir les trois réalisateurs. Philippe Warnel a réalisé le film Girl with X-ray Eyes, un film de 27 minutes, un premier film. Fanny Zaman a réalisé Surface, un premier film également de 21 minutes, en compétition internationale, tout comme le film de Philippe Warnel. Et nous recevrons, devrait arriver dans peu de temps, Dariusz Kowalski, qui est le réalisateur de Optical Vacuum. Vous avez peut-être entendu la bande-son du film cet après-midi sur la grenouille. La projection s'est terminée à 17h et je crois qu'il y avait un agora juste après, donc il ne devrait pas tarder. Ah, il n'était pas là. D'accord. Bon, donc ça sera la surprise. Savoir si... Ravi de l'apprendre. Philippe Warnel, bonjour. Donc, votre film s'appelle Girl with X-ray Eyes. Alors, vous êtes un artiste performeur. Vous avez été en résidence à Stéride, à Marseille, il y a quelques mois, d'ailleurs, je crois.
Oui, 2006.
En 2006. Donc ce film poursuit, si j'ai bien compris, un travail que vous avez engagé depuis plusieurs années autour du corps. Donc est-ce qu'avant de parler de ce film précisément, vous pouvez nous dire quelques mots sur les principales performances que vous avez effectuées sur ce thème?
My background's in fine art, but it's always really been founded on, if you like, in some way being included in the work, so that, you know, rather than sort of work only in representation, there's some element of the live body working in conjunction with other components, often pieces of apparatus, various materials and specific properties, that kind of thing.
Donc, je suis plasticien de formation et j'aime bien, à travers mon œuvre, être dedans, faire partie de l'inclusion de mon travail avec le corps réel et travailler ainsi avec d'autres matériels avec des valeurs spécifiques.
More recently, the work has become very much about the sort of, I don't know, intersection of the disciplines of biology, anatomy, medicine, and how perhaps you can appropriate the use of medical instrumentation or circumstances to form a performative circumstance.
Et plus récemment, mon travail se concentre sur des liens entre la biologie, la médecine et l'anatomie, et comment s'approprier dans des circonstances formelles pour créer une œuvre.
For example, in 2006, I made use of a new technology, which is a swallowable camera, a micro camera, that photographs the journey through your gastrointestinal tract. And I swallowed this in front of an audience who could watch the kind of fantastic voyage through my body. And whilst the camera took 70,000 photographs, and eventually it comes out the other end.
Par exemple, récemment, en 2006, j'ai utilisé une nouvelle technologie, une caméra qu'on puisse avaler. Et ça suit le voyage fantastique dans le tract gastro-intestinal. Et j'ai fait une performance devant un public qui a vu donc, cet avalement et ce voyage à travers 700 000 photos.
But it's probably important to point out that as well as them being medical procedures, they're also, for me, spaces of fantasy spaces, and they're in reference to cinematographic spaces, like the idea of a journey through the body as, you know, a kind of cultural construct or something anyone might be might fantasize about doing, a sort of transparency of the body, if you like.
Et ce qui est important pour moi et ce que je remarque à travers ces processus médicaux à la base, c'est le lien aussi avec la fantaisie, l'envie de chacun de se regarder de l'intérieur à travers des voyages à l'intérieur du corps et ainsi de créer des constructions culturelles et basées dans le fantasme où on peut retrouver l'intérieur du corps et cette idée de transparence.
Vous avez écrit des textes, je crois, sur les liens entre le calamar et le cinéma.
How does he know about that?
Comment vous êtes au courant de cela?
Bah, j'essaye de me documenter pour préparer.
Ah, yeah? Yeah, I've written about the relationship between squid and cinema, but I wasn't expecting to talk about it this evening. But I can if you want.
Three words?
Yeah, sure. I wrote a text about sea creatures that have got specially developed organs to generate light. And there's one squid in particular called the Hawaiian bobtail squid that can actually project a beam, a kind of torchlight, from its belly. It's a sort of specially adapted ink sac iris. And it uses this to, rather amazingly, to eradicate the traces of its own shadow to avoid detection by predators.
J'ai effectivement écrit des textes entre les liens de calamar et cinéma, mais j'étais pas du tout. Ça me surprend d'en parler ce soir. Grosso modo, je me suis concentrée sur des créatures marines qui génèrent d'une façon biologique de la lumière. Et je me suis concentrée surtout sur un calamar à Hawaï qui peut projeter une lumière à partir de son ventre et un espèce de sac d'encre comme iris. Et c'est intéressant parce qu'il l'utilise pour éradiquer son ombre et pour se cacher des prédateurs.
And in this text, I made some connections between that idea and that of cinema, but simply working on the basis that they're both projections, as it were.
Et avec ce texte, avec ces créatures, j'ai fait des liens entre les calamars donc et le cinéma et cette idée des projections. Sont tous les deux des projections.
D'accord. Bon, alors on va parler plus précisément de ce film que vous avez réalisé en 2007 et qui est projeté ici, qui s'appelle Girl with X-ray Eyes et qui est donc en compétition internationale. C'est un film de 27 minutes. En quoi ce film prolonge-t-il donc ce travail que vous nous avez un peu décrit autour des performances et des calamars et du cinéma?
Ok. And the calamar? Yeah, the squids are not in this film, unfortunately. They will be in my next film. There's several things, really, that, in a sense, distinguish the kind of performance I do that are, if you like, in continuation in this film. One is that I don't say anything when I'm making a performance. I've really never said a word in a performance ever, and I intend to continue on that basis. The second thing is a sense of an encounter between two parties involving a negotiation process. The third thing would be, let's say, to scrutinize or investigate or explore ideas concerning the limits and the thresholds and the boundaries between bodies, between subjects, and what happens in those micro environments that we generate around us, our immediate environment.
Donc il y a trois choses qui se voient dans mon parcours de performance et de cinéma. C'est donc, bien que les calamars ne sont pas présents dans ce film, peut-être dans l'avenir, je distingue quand même la performance dans la continuité de mes films. D'un part, je ne dis rien et j'ai l'intention de ne pas commencer. Je n'ai jamais prononcé un mot à travers mes performances. Deuxièmement, ce qui m'intéresse, c'est les rencontres entre deux personnages, deux protagonistes, ou plus, et cet processus de rencontre. Et aussi, troisièmement, d'observer, de scruter et d'explorer des limites justement entre les corps et les micro-environnements qu'on trouve autour de nous.
Alors, il faut que je dise que dans ce film, Philippe Warnel est allé voir une jeune femme russe qui est donc connue pour avoir un don, celui de deviner les organes à l'intérieur du corps. C'est une étudiante en médecine, c'est pas qu'elle les devine, c'est qu'elle les voit vraiment. Et donc, elle semble donner à domicile déjà des consultations, des gens viennent la voir pour se faire observer et qu'elle porte un diagnostic. Et donc, Philippe Warnel est allé la voir et se met en face d'elle pour se faire diagnostiquer de la même façon, sauf c'est un film, une performance, donc il met ça en scène dans un gymnase et il y a des contre-champs dans lesquels il montre cette jeune fille dans son environnement quotidien, habituel, son logement et ses immeubles. Donc, est-ce que Philippe Warnel, est-ce que vous pouvez nous parler, pour commencer, de cette jeune fille ? Qui est-elle et est-ce qu'elle voit vraiment avec ses yeux de la même façon que les rayons X?
Okay. Well, I should probably start to respond to that by saying that and be very clear about it, that the project was never intended to test or try to determine or even evaluate whether Natasha is capable of what she says she is capable of, for several reasons, but I'll go into that in a bit more detail later if we can. But what's intriguing about Natasha, first of all, is what she says she can do. It's not simply X-ray vision, actually. She suggests that she can see down to the cellular level, so each individual cell in the body, and so well beyond the power of X-ray vision. And I found it extremely intriguing that Natasha sort of represents this tradition of almost assimilating a technology and then going beyond it with some kind of bio assistance.
Ce qui m'était très clair, c'était que ce projet ne s'agissait pas seulement d'évaluer, déterminer ou de voir si Natasha était vraiment capable de ce qu'elle prétendait pouvoir faire, mais ce qui était intriguant, c'était qu'elle était quelque part plus fort qu'un radio, voyant, à son avis, jusqu'au niveau cellulaire, c'est-à-dire bien plus loin qu'un radio puisse faire, jusqu'aux cellules individuelles du corps. Et elle représente une tradition d'assimilation de voyance à ce niveau que je voulais explorer.
There's probably a couple of other things worth saying. One is that she also embodies, as it were, a kind of the paradox of, you know, how we deal with our bodies in terms of health and maintenance. In that, on the one hand, she represents the orthodoxy of traditional Western medicine, at training to become a doctor, but on the other hand, a rather sort of shamanic and cultural tradition that we don't quite comprehend, and how, therefore, her position is very ambiguous. And I find that extremely interesting.
Ce qui était intéressant, c'était ce paradoxe entre la façon dont on traite et qu'on maintient nos corps, et aussi la dichotomie d'un part de la médecine traditionnelle, puisqu'elle est en train d'étudier la médecine, et aussi le côté chamanique et culturel qu'on a à peine compris jusqu'à présent. Et cette ambiguïté dans son approche m'intéressait vachement.
And the final thing to say that is perhaps more in answer to your question is that whether or not Natasha is capable of what she says she does, if you look into the kind of cultural history of, let's say, something where there's almost a science fiction element involved, some kind of, for example, mutation, or someone who has some form of clairvoyance, or someone who can do something that is beyond the physical in some manner. That's a tradition that's as old as time itself. And, you know, I'm interested in the exploration and continuation of that tradition that she represents.
Et finalement, pour répondre à votre question par rapport à sa capacité ou non de voir à travers le corps, ce qui m'intéresse énormément, c'est cette culture d'un part de science-fiction, de mutation et de clairvoyance et des questions que ça pose, et aussi cette capacité de voir plus loin que l'entité physique. Ça, c'est des pratiques, des questions qui se posent, qui sont plus vieux que Dieu, et c'est justement ça qui m'intéresse.
Vous avez décidé de vous faire ausculter, entre guillemets, pas chez elle, ce qu'elle a l'habitude de faire avec les gens habituellement, mais dans un gymnase. Quelle était l'idée derrière ça?
That was my decision, and it was in part to, in part because of the terms of making the film. And it, the necessities that involved, particularly to have a space that had adequate light, but to have a space that had certain connotations connected to the body, of kind of exercise and muscularity, and in a sense the conditioning of the interior. But we were also extremely lucky in that the particular space we chose was also full of motifs, lines, colours, targets that suggested kind of trajectories of vision, directions of vision, and points of arrival for seeing things that fitted into the notion of the project quite well.
La décision de tourner dans un gymnase était la mienne, et c'était d'un part par rapport aux questions pratiques du tournage, il fallait quelque part trouver un endroit où il y avait assez de lumière pour pouvoir tourner, et aussi je voulais incorporer ce lien de muscularité et de physique qui se mariait bien avec l'endroit du gymnase. Là, ce qui était un coup de chance dans le gymnase, avec des lignes, le cible et les motifs, les couleurs qu'on voit dans son environnement, ça se mariait bien avec le trajet de vision que j'explorais et ce point d'arrivée visuel que je voulais explorer dans le film.
And additionally, we also filmed Natasha in her domestic environment, where, and particularly the couch, her equivalent to the psychoanalyst's couch, where her patients or clients would ordinarily reside.
On a aussi tourné chez elle, donc vous remarquez sûrement surtout son divan qui représente un peu le divan du psychologue, et c'est là où d'habitude elle ausculte ses clients, ses patients chez elle.
Dans son intérieur, donc. Merci beaucoup, Philippe Warnel. On va avoir quelques chroniques également ce soir dans ce magazine que j'ai oublié d'annoncer dans l'introduction. Donc, Jean-Marc Lamour, pour commencer, va nous parler d'un film qu'il est allé voir cet après-midi. On entendra également la chronique technique de Juliette, qui est exceptionnellement est là ce soir pour nous la présenter. Et on entendra Célia, par contre, là, en différé. Elle nous a préparé un petit sujet. Mais Jean-Marc, toi, tu es allé voir un film qui s'appelle You Must Read This After My Death.
Oui, bonsoir, merci Marc. C'est plus exactement « Must Read After Death », qu'on pourrait traduire par « À lire post-mortem ». C'est le premier film de Morgan Dews. Un film sans caméra, puisque Morgan Dews plonge corps et âme dans les archives filmiques et sonores de sa propre famille. On pourrait même dire qu'il se dissout dans ce corpus, puisqu'il échappe derrière ce sujet à la tentation d'un film à la première personne. À partir d'environ 200 films Super 8 couleur, de photos de famille et de dizaines d'heures de correspondances enregistrées sur bande magnétique, Morgan Dews entame un essai d'autopsie familiale et finalement de dissection des rapports complexes au sein du couple que forment ses grands-parents dans les années 60. Alors le film a une trame chronologique, on va dire, et puis qui laisse place à une trame, on va dire, plus affective ou psychologique, quoi, de détérioration des rapports. En effet, alors que l'union de ces deux personnes, un couple moyen américain des années 60, alors que cette union est brodée de belles intentions, on va assister au fil des bobinos Super 8 et des courriers audio à une lente déliquescence d'un amour et des rapports familiaux et des rapports parents-enfants qui l'entourent. Alors Morgan Dews est le petit-fils de cette famille et il va s'appuyer notamment en ouvrant cette boîte de mémoire, enfin cette mémoire familiale, il va s'appuyer sur les contradictions assez féroces qui existent entre les mises en scène en Super 8, donc les mises en scène en images où la famille se retrouve dans le cadre de week-ends. Alors on voit des scènes des barbecues, des week-ends soi-disant heureux, des anniversaires. Et puis les courriers audio sont eux par contre d'une crudité et d'une, bon, disons de... où on sent l'abîme des gens qui sont en train de s'éloigner, de plus comprendre. Et donc il y a vraiment un grand écart, quoi, entre le matériau image et le matériau sonore. C'est un film, moi, qui m'a beaucoup fait penser à un autre travail en Super 8, noir et blanc cette fois, qui est celui de Olivier Smulders. Et le film s'intitule Mort à Vignol. Et dans ce film, il analyse l'étrange rituel d'auto-archivage auquel se livrent bon nombre de familles. Et il le compare notamment à un mausolée. Alors, Must Read After Death, ce n'est pas pour autant un film triste, mais je le classerais plutôt dans la famille des films nécessaires, des films de survie, des films qu'il faut faire pour leur auteur, parce qu'il faut donner une place à cette histoire-là et à cette histoire familiale, en l'occurrence. Ce film, vous pourrez le découvrir à présent aux Allées Gambetta, à la vidéothèque du FID, et puis en espérant qu'il soit reprojeté en ville ou en région. Je vous y invite.
Merci Jean-Marc. Une petite histoire pour lancer la première pause musicale de ce magazine en direct du Théâtre de la Criée, où le Festival international du FID, la 19e édition, s'achève ce soir. Donc une trentaine de policiers en civil et en uniforme se sont invités jeudi dernier au concert des Lillois du MAP, le ministère des Affaires populaires. C'était au Balthazar, insultes, gaz lacrymo et flashball de sortie contre le public et les membres du groupe. Le concert a été annulé après deux chansons, donc une spéciale dédicace à celles et ceux qui étaient là-bas jeudi soir. Le ministère des Affaires populaires sur les 3-8, ça s'appelle Bal Populaire.
1, 2, 3, 4. Bal Populaire de la France profonde, qui fait tourner les têtes comme une vase, comme une fronde. Un produit du terroir révolutionnaire qui allume. Balle populaire de la France profonde, qui fait tourner les têtes comme une vase, comme une fronde. Un produit du terroir révolutionnaire, telle une mine, une bombe, une balle populaire.
Plein de ministères des affaires populaires, au-delà de toute frontière, plus de ghetto, plus de barrières. En l'eau, tous des frères, plein de repères. Jacques Brelpand, Marley, Aznav, l'abbé Pierre. Notre art populaire, musique d'ici et d'ailleurs. On en a fait un ministère pour un monde meilleur. Confluence d'influence, de sonorités différentes. De Roubaix à New York en passant par Alger la Blanche. Du bon son pour tout le monde, du Joe dernier jusqu'au grand-père. L'album populaire vers son troisième millénaire. Juste pour faire bouger les consciences, vasser les préjugés. Rien à faire qu'à entrer dans la danse, laisser aller. À l'heure du repli communautaire à l'aube d'une troisième guerre. Aux ordres on reste réfractaire, attitude salutaire. Que ceux qui jouent avec les peurs pyromanes incendiaires prennent ce morceau en plein cœur comme une balle populaire.
Balle populaire de la France profonde, qui fait tourner les têtes comme une vase, comme une fronde. Un produit du terroir révolutionnaire, telle une mine, une bombe, une balle populaire. Balle populaire de la France profonde, qui fait tourner les têtes comme une vase, comme une fronde. Un produit du terroir révolutionnaire, telle une mine, une bombe, une balle populaire.
Salam, moi c'est Jazz le maquisard, petit fils de Mujahid. drapeau sans nation ni patrie. Hybride culturel entre Occident et l'Algérie. Contre la haine et la justice, j'ai pris les armes pour la mémoire de mon peuple. J'ai pris les armes dans ma cible. Dictateur et colonisateur, répresseur, esclavagiste. Dans mon viseur, en guerre contre bavure, police, raciste. En guerre contre inégalité, pouvoir, fascisme. Mon hip-hop, j'écris comme on brandit un drapeau blanc. Soldat pour la paix, j'rime pour les innocents. Contre les dictatures, les embargos, les colonies, les bombardements, les invasions, les tyrannies. J'rime pour la révolte, les coups d'état, les rébellions, les mutineries, les résistances et l'insurrection.
Mal populaire de la France profonde, qui fait tourner les têtes comme une vase, comme une fronde. Un produit du terroir révolutionnaire, telle une mine, une bombe, une balle populaire. Balle populaire de la France profonde, qui fait tourner les têtes comme une vase, comme une fronde. Un produit du terroir révolutionnaire, telle une mine, une bombe, une balle populaire.
Violon, accordéon, grosse caisse, chalet, caisse claire. C'est clair frère, ça va jaser dans les HLM et les chaumières. Et dans nos concerts, les têtes de moules, des trombères. Tous des bounioules, des négros, des chintops, des chabères. Une seule et même musique, un seul et même bon son. Bon sang, bonsoir, ça faire pour la révolution. Que les choses bougent enfin, que les gens bougent ensemble. La corrie humaine divise quand notre musique rassemble.
Ça vient d'en bas, du sous-sol, du fond de la cave. Tu fais maison, l'artisanat, la sonde brave. Fennec, du bitume, du pavé, sale crevard. Les tontons flingueurs du macadam, du boulevard. Les poètes de l'asphalte, les artisans du béton. Chercheurs de rimes, remplis de ballons téflons. Je t'envoie tel un kamikaze révolutionnaire. Une mine, une bombe, une balle populaire.
Balle populaire de la France profonde, qui fait tourner les têtes comme une vase, comme une fronde. Un produit du terroir.
Ministère des Affaires Populaires sur la grenouille. Fanny Zaman, vous êtes la réalisatrice du film Surface. C'est un premier film qui dure 21 minutes. Quel est votre parcours d'artiste avant la réalisation de ce film?
I'm coming from an artistic background and usually I create installations or situations. But next to that, I read a lot. It's a really an important source for me. And I felt that I needed to make something which was not like on one, which has more time continuation, like a story or a fiction movie that you can watch in theater. So I made the switch to make, instead of a video that you watch in a museum context, I wanted to make a film which you can see in a theater context. But my background is also mixed because I studied art, but my latest study is an information study. And that was also a great influence to this movie, to other work of me. There's the study about information studies. It's about that there is really an information flow nowadays and how to deal with it.
Excusez-moi, peut-être une traduction.
Je suis de formation plasticienne et j'ai surtout auparavant fait des installations et des situations. Je lis énormément aussi, ça, c'est une source très importante de mon travail. Et cette fois-ci, je voulais créer quelque chose qui avait une continuité dans le temps plus important, comme une histoire, comme une fiction. Au lieu d'un film qu'on voit dans un contexte de musée, je voulais quelque chose qui serait regardé en salle. Et grâce à ma formation mixte et par rapport à l'art et l'informatique que j'étudie en ce moment, je voulais explorer cette idée de surabondance d'informations, d'images.
De quelle surface s'agit-il dans ce film?
Well, it's a surface of our total environment, and this surface exists out of information particles. Maybe visible or invisible, we are completely surrounded with information. And the movie brings three protagonists, which are all of them dealing on a different way of perceiving the information which surrounds us.
Donc le film s'agit de notre environnement en images, à partir des petites particules d'images et d'informations, ce qui est visible ainsi que ce qui ne l'est pas. Et il y a trois protagonistes dans le film et tous les trois ont une façon de percevoir ces images autour d'eux d'une façon différente.
The first protagonist is the robot Rover Spirit, and he's a registering. Objectively, so they say scientifically objective registration, 360 degrees all around, and he's also doing it constant, so he's really like a multi-perceiver robot. And still you can see that he has a black spot, and that makes him tragic, because when he's really like over-perceiving, he still can't see one black hole.
Le premier protagoniste s'agit d'un robot, donc quelque chose qui enregistre des images constamment en tournant en 360 degrés. Et ce qui est intéressant, c'est que cette multi-perception, si on veut, même quand il y a une surabondance d'images dans son enregistrement, il n'est toujours pas conscient du point noir, et ça le rend tragique.
And the second protagonist is the woman, and she has a very particular way of perceiving a story, what happened. And she's like a spiral, telling and retelling the story again and again. And it's also a way of dealing with too much information, that you just pick out a part and like experience it again and again. And I want to go back to old religion way of perceiving information, or how we used to read, like in religion, that we read again and again instead of reading everything once and more, that she's like doing it repetitive.
La deuxième protagoniste, donc, s'agit d'une femme, et sa particularité à elle, c'est qu'elle est comme une spirale en train de réciter et de répéter ce récit. Et pour moi, c'était une façon de traiter la surabondance donc, d'informations. Au lieu de répéter des choses, d'accumuler de nouvelles informations, elle choisit une chose qu'elle expérience de façon répétitive, et ça a des résonances avec la religion, où on ne rajoute pas des textes, des expériences, mais on répète, on relit.
And the third protagonist, the man, he is then also on a scientific way perceiving things. He wants to tell a story which is reliable, and for that we need facts, and then he uses a lot of figures. Everything is measurable in his story, so that makes his story true.
Et troisièmement, donc, un homme qui aussi a une perception scientifique des choses. Il est scientifique, donc ce qu'il raconte sont des faits réels, fiables et mesurés.
Oui, mais il décrit une apparition extraterrestre.
Yes, that's then, of course. That was my thing that I was going to conclude. The three protagonists, yes. All three of them seem to be like a turning around something which is without, out of their reach. The robot has this black spot and she's telling a story, but they are all three sort of whirling around something which they all three can't reach.
Merci, je voulais conclure ainsi. Donc tous les trois tournent autour quelque part de quelque chose qui est impossible d'attraper.
Pour terminer, Fanny Zaman, qu'attendez-vous de ce festival?
This is my first time that I enter in a festival, and I'm very happy.
Documentary festival.
Yes, I'm very happy that it is a documentary festival, because I really enjoyed the movies that I saw, and I'm happy that I was one in the festival.
C'est la première fois que je suis diffusée dans un festival documentaire, et je suis très contente que ça soit un festival documentaire ici. J'étais ravie de voir autant de films intéressants et d'être parmi eux.
Est-ce que vous avez vu le film de Dariusz Kowalski?
Non.
Bon, tant pis. En tout cas, Dariusz Kowalski nous a rejoint, donc on lui posera quelques questions tout à l'heure sur Optical Vacuum. Mais pour l'instant, on va donc écouter la dernière chronique technique de Juliette, qui concerne le montage ce soir, je crois.
Oui, donc c'est une interview avec une monteuse, Sandra H, qui travaille essentiellement sur du documentaire et qui nous donne sa vision du montage d'un documentaire. Sandra H, bonjour.
Bonjour, je suis monteuse, essentiellement documentaire.
Est-ce que vous pouvez nous définir un petit peu la place du montage dans un film?
Je pense que c'est une place assez crucial, parce qu'en fait, c'est quand même là où le réalisateur arrive avec du matériel, son et image, et où en documentaire, en général, c'est quand même là où, où le film prend vraiment corps. C'est aussi selon, vraiment selon le travail des réalisateurs, mais il peut arriver que vraiment tout le film se construise vraiment au montage, quoi. Le film prend en général corps au montage, puisque en documentaire, on sait rarement avec quelle matière on va aborder le montage avant d'avoir fini le tournage. Du coup, c'est vrai que ce qui est assez compliqué dans le documentaire, c'est que beaucoup de choses se jouent quand même dans la relation entre monteur et réalisateur, parce que les rôles ne sont pas franchement définis, et à chaque couple de réalisateur-monteur, l'équilibre est à chaque fois un peu différent. Il y a des réalisateurs qui laissent beaucoup de liberté à la monteuse, des réalisateurs qui sont carrément absents pendant une grande partie du montage et qui viennent superviser, qui viennent guider, qui viennent critiquer, qui viennent comme ça ponctuellement, et puis d'autres collaborations qui sont beaucoup plus de proximité, beaucoup plus de dialogue, beaucoup plus d'échanges, avec des codes qui sont justement très peu définis et très peu normalisés, qui se renouent à chaque documentaire, à chaque nouveau travail. Il faut repartir sur une relation qui est à la fois humaine et à la fois de collaboration de travail pour arriver à un produit qui doit satisfaire et le monteur et le réalisateur. Le monteur, lui, touche directement la matière, travaille directement le son, l'image, et ce qui laisse aussi au réalisateur les mains libres et donc par la conséquence l'esprit aussi plus libre pour avoir aussi un recul et pouvoir travailler à son rythme et à sa façon. Et donc le monteur, lui, c'est vrai, est quand même plus tributaire de ce rapport direct à la matière, mais là aussi pour donner un recul, pour intervenir, pour critiquer, pour apporter, pour discuter, pour enrichir aussi ce travail d'élaboration du film. Et donc assister, moi je dirais quand même que assister le réalisateur dans cette création, quoi. On travaille avec une matière qui est définie, et bon, des fois il y a des choses qu'on aimerait peut-être améliorer et que malheureusement on ne peut pas, parce que ça c'est sûr que c'est la grosse contrainte du documentaire, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une prise, qu'un axe, qu'un plan. Donc on travaille avec cette matière qui est quand même très... qui détermine le film, quoi. En général, le travail, le cœur du travail est vraiment dans la narration et avec évidemment une approche de l'image, un rythme, une image particulière. Mais quand même, c'est souvent la narration qui est quand même importante, et trouver une narration qui correspond au propos, quoi. La première étape, en général, c'est de savoir à peu près la matière dont on dispose, donc des rochers. Ça permet en général au monteur, qui des fois ne connaît pas du tout le projet, ne sait pas du tout ce qui s'est passé en tournage, d'avoir l'appréhension de tout ce qui s'est passé en amont du montage, et avec ce que le monteur peut apporter aussi. La place du monteur est aussi importante dans le recul qu'il apporte au réalisateur, parce que c'est vrai que la mise en projet d'un documentaire, c'est quand même un peu un pari sur l'avenir qui se révèle ou qui ne se révèle pas, mais il y a toujours des surprises au moment du tournage, des bonnes heureusement. Mais donc voilà, après on arrive au montage avec cette matière, donc avec des bonnes, des mauvaises surprises. Et c'est vrai que le monteur est aussi là pour aussi rassurer le réalisateur, qui a en général ses doutes et ses inquiétudes.
Donc là on voit bien que d'être monteur, c'est à la fois être technicien et créatif.
C'est vraiment la charnière, ouais, c'est clair. Maintenant, chaque monteur travaille de manière différente, chacun a ses manières de voir aussi le travail. Mais le travail du monteur peut aller du simple pouce-bouton, on va dire, vraiment exécutant, à prendre en charge la réalisation entièrement. Parce qu'effectivement, il y a des monteurs qui... Après, il est toujours dur de savoir la part du monteur, la part du réalisateur dans le montage d'un film. C'est quelque chose qui se noue de manière assez délicate.
Voilà, c'était la chronique technique de Juliette. On va maintenant écouter Célia, qui a rencontré deux responsables de festivals de films à qui elle a proposé de donner leur point de vue sur le FID, le Festival International du Documentaire, et sur cette 19e édition. Donc, on va écouter Gérard Bayon, qui est membre de l'équipe organisatrice de Traces de Vie à Clermont-Ferrand, festival du film politique et social, Et Jean-Pierre Sougy, l'autre responsable de festival, lui, il est responsable directeur artistique des Inattendus, festival des films indépendants à Lyon. Et donc, ils donnent donc tous les deux leur avis sur cette 19e édition du FID.
L'intérêt que je trouve à tout festival de toute façon, mais celui-ci particulièrement, c'est que ça permet de réfléchir très vite. Voilà. Ça permet non seulement de faire des connexions entre des personnes, mais même quand on est baigné dans ces films toute la journée, on se met à réfléchir beaucoup plus vite sur, par exemple, la direction qu'on voudrait que prennent les Inattendus prochainement, ou les qui inviter, comment construire une programmation. Ça permet aussi de... Il y a aussi quelque chose d'exemplaire quand on va dans un festival comme ici. Donc on se dit, bon ben, eux font ça, comment nous, par rapport à ce qu'on a déjà fait, comment est-ce qu'on pourrait s'arranger quelque chose. Vous voyez, voilà, l'année dernière j'étais venu et ça tombait plutôt pas mal parce que en 2008, donc nous aussi on organisait notre festival et ça m'avait permis, par exemple l'an dernier, de rencontrer Jean-Claude Rousseau. Et donc de le rencontrer, de discuter avec lui sur quel genre de programmation on pouvait faire nous aussi aux Inattendus. Et donc on a programmé, je crois, 3 des longs métrages de Jean-Claude Rousseau à la suite.
Je viens depuis une dizaine d'années sur le FID.
Gérard Bayon.
Pour à la fois rencontrer des gens, mais aussi pour voir des films, puisque notre festival se déroule au mois de novembre. Et ça permet d'avoir de voir des films qui peuvent être éventuellement sélectionnés ensuite au Festival de Clermont. Moi j'ai bien aimé Nos lieux interdits, j'ai beaucoup sur ce film sur le Maroc. J'ai aussi aimé Au loin des villages. Et puis dans la sélection française, bon, on suit depuis quelques années un réalisateur, Humbert, et son film m'a aussi intéressé.
Et alors vous disiez que vous étiez là depuis, que vous passez au FID depuis une dizaine d'années. Qu'est-ce qui vous marque peut-être dans l'évolution de ce festival ?
Alors, bon, c'est l'apparition de la fiction. Moi j'aime bien. C'est pas ce que nous avons choisi, hein, sur Clermont. Mais personnellement, j'aime bien ce mélange de fiction et de documentaire parce qu'il y a des choses que l'on peut dire dans le documentaire, et des choses qui sont plus faciles à dire dans la fiction. Mais le tout, se renvoyant l'un à l'autre, et ça me paraît intéressant.
Première édition de ce festival FID de Marseille, organisé par Olivier Masson, qui est décédé depuis. Donc il avait fait sa première édition à Lyon, hein, dans les CNP, avec Marc Artigoio. Donc c'est la première édition. Et moi à l'époque, donc ça fait maintenant des années.
Hein, Jean-Pierre Sougy.
Donc 19 ans, donc 20 ans peut-être. Et moi à l'époque, j'étais pigiste à Lyon Libération. Donc je devais suivre le festival. Et je me rappelle, premier papier que je fais, il était sur cette distinction entre fiction et documentaire. Voilà. Donc c'est une idée qui court quand même depuis quelque temps, quoi, depuis très longtemps même. Et quand je dis ça, même avant peut-être même dès l'origine du cinéma, on connaît bien l'histoire entre Méliès et Lumière, enfin bon, d'un côté la fiction, l'autre le documentaire, tout ça on sait bien que c'est assez faux quand même, et que cette histoire de genre, donc elle n'est pas très efficiente. Moi en tant que spectateur, quand je vais au cinéma, j'entendais Jean-Pierre Gorin qui en parlait encore hier, évidemment quand une fiction est bonne, parce qu'il faut bien employer ces mots-là pour simplifier les choses, quand une fiction est bonne, c'est que le documentaire qu'elle porte est aussi bon qu'elle, quoi. Et inversement, dans tous les documentaires, il y a une part fictionnée qui est énorme, sinon ça n'a aucun intérêt. Ce qui se passe, c'est que malgré tout, les documentaires qui sont visibles ici, ou ceux que nous on peut montrer, alors quand je dis documentaire, encore une fois, c'est pour faire vite, hein, parce que sinon, bon. Ce sont des films qui n'ont pas de lieu de diffusion, ou pratiquement pas. C'est des films qui n'ont pas été financés souvent, qui n'ont pas été financés par la télévision ou le cinéma traditionnellement. Donc c'est des films qui sont souvent... Je voyais le film d'Éric Pellet, là, que j'ai aussi trouvé assez, vraiment très très beau, le film qui s'appelle Noir Écran. Donc c'est un film, quand on regarde le générique, c'est un film autoproduit, quoi. Alors c'est vrai que ces petits appareils comme ceux que vous avez aujourd'hui pour enregistrer le son existent depuis maintenant des années et permettent vraiment à moindre coût de faire des films et à faire le montage derrière. Donc ça, c'est une histoire connue maintenant. Le problème, c'est donc pas tellement de faire des films, parce que encore une fois, ces moyens-là le permettent à vraiment des faibles coûts. La grosse difficulté, c'est de les montrer. Et donc c'est des films qui souvent ne trouvent un écho que dans des festivals. Alors le risque évidemment, c'est que ce sont des films de festival et que, comment dire, on ignore un peu le public lambda, quoi, hein. Donc ce sont des films qui ne s'adressent qu'à un public dont déjà c'est initié, de festivaliers, voire de professionnels. Avec le risque encore une fois que tout ça tourne un peu en rond, quoi, que... comment dire, les cinéastes parlent aux cinéastes. Bon, c'est un écueil.
Oui, alors, on a une chance à Clermont.
Gérard Bayon.
C'est qu'il y a une culture de l'image très très forte grâce au festival du court-métrage. On a un vrai public qui est un public de la région et qui est un public de connaisseurs de l'image, mais pas un public de personnes qui travaillent, qui ont d'autres activités et qui viennent au festival parce qu'ils sont amateurs d'image. Ça joue aussi dans le sens d'un public qui n'est pas un public complètement urbain, qui est un public qui vient des petites villes autour de Clermont. Le festival entretient cette relation par des activités en milieu rural tout au long de l'année. Je dis toujours, c'est un peu le système Tupperware, c'est-à-dire qu'on fait des activités, mon cinéma chez les voisins, c'est-à-dire qu'une personne invite. Une personne invite ses voisins et on fait une séance à domicile pendant l'hiver en particulier autour d'une thématique. Et c'est des choses qui marchent très très bien et qui permettent d'entretenir le public, qui permettent d'entretenir ce lien avec le public.
On va poursuivre l'émission avec Dariusz Kowalski, donc, qui est présente au Festival international du documentaire, un premier film qui s'appelle Optical Vacuum. C'est un film de 55 minutes qui utilise des images de webcam qu'il est allé prendre sur le site opentopia.com et qu'il met en relation avec une sorte de journal intime d'un artiste peintre sur une année. Voilà. Donc, Dariusz Kowalski, est-ce que vous pouvez nous dire deux mots de ce site sur lequel vous êtes allé prendre ces images, Opentopia?
Okay. The starting point for the film was a website which collects thousands of webcams from all over the world, which were hidden for the public, and it was kind of hack. They found especially webcams from the public spaces and universities and working places, and they put it everything on the web. And
dans le début du projet, commençait à travers mes recherches sur un site qui diffuse des milliers de photos de webcams qui sont cachées de l'espace public, cachées du public. Ils étaient surtout placés dans les endroits comme les lieux de travail et les facs.
And I was working for 4 years with material from the internet. There were 2 different films before. And that Optical Vacuum was the first long film in that way. And the starting point was, on the other hand, this very strange material from this strange footage from the internet. And on the other hand, the idea to take a voiceover of a friend of mine. And the idea was that he should make a diaries for 1 year. And I didn't know what he was going to say, but we just make the experiment just to do it. And after 1 year, I get the material and I started to edit.
Donc j'ai travaillé pendant 4 ans sur ces images bizarres que j'ai trouvées sur l'internet, et aussi de l'élément déclencheur pour la réalisation du film était le voix off de mon ami, donc un projet qu'on avait conçu ensemble, qu'il allait écrire un journal intime sur un an, et moi je ne saurais pas ce qu'il écrirait. Et à partir du moment, après une année qu'il a fini son journal, j'ai commencé à faire le montage.
D'accord, c'est un artiste peintre qui s'appelle Stephen Matthewson, c'est ça le nom de votre ami, ouais. Donc vous avez fait 2 films avant sur le même mode, c'est-à-dire prendre des images web. Comment ça a commencé le premier film? Qu'est-ce qui a déclenché l'envie de faire un film avec des images web en fait?
Yeah, that was funny. I was making a research about urban spaces. I did a film about the subway in Vienna, and then I wanted to make a film about highways. And this kind of, public transit spaces. And I was searching on the internet for the Austrian highways, and suddenly I found a website from Finland which collected, I think, more than 700 webcams from all over Finland, just for people to have who can check on the internet if the highway can be passed or not. And then I thought suddenly, hey, why don't take pictures from the internet and start to make a film without making pictures by myself?
C'est drôle, mais ça commençait à partir d'une recherche que je faisais sur un autre projet qui s'agissait des espaces publics. J'ai commencé à faire un film sur le métro à Vienne et je voulais enchaîner avec un projet sur les autoroutes et cette idée de transit public. Et j'ai commencé à faire des recherches sur l'Internet et j'ai tombé sur un site finlandais qui avait des images de plus de 700 webcams de tout le pays et ça m'a intriguée et je me suis dit je veux commencer à partir de là de faire un film où je ne fais pas les images moi-même.
Qu'est-ce qui vous intéresse dans ce genre d'images?
These images are very strange. It has nothing to do with it's a very special aesthetics. It's a different how a cameraman would take pictures. You know, it's a totally different way how to make a cadrage. And the cameras are mostly very high. And the one thing is just to catch so many space as possible. And that was a kind of thing that was fascinating for me because it reminds me on old paintings from the 17th century, where you have this kind of point of view from the air, where you see very small people, you see very small houses, and you have this kind of distance. And that was, for me, the starting point when I start think about that. That's a totally a different view on how or totally different way to make pictures. And that's kind of apply art. You know, it's a call it? It's nobody behind the camera somehow.
Pour moi, c'est des images étranges. C'est des images qui n'ont pas été faites par un cameraman, un cadrage qui est complètement différent et pris de très haut, d'autant de lieux possibles aussi. Ça m'a fascinée parce que ça m'a fait penser au vieux tableau du XVIIe siècle où on a un point de vue, un regard de l'air. On voit des gens comme des fourmis, des petites maisons. Et ce qui m'intéressait, c'était justement cette distance du regard qui était très différent et un moyen pour moi de réaliser des films comme de l'art appliqué. Et de ne pas avoir un caméraman derrière la caméra.
Donc, Dariusz Kowalski, pour réaliser Optical Vacuum, vous allez sur ce site OpenTopia et là vous retrouvez face à des milliers d'images. Comment avez-vous choisi les images d'Optical Vacuum?
There was one moment when I was used to work with this kind of footage. And there was one moment when I was watching on the website, and I found a webcam from United States, and it was a university where people was just sitting around in a lecture, and somebody was moving the camera and zooming on the tits of a girl, you know. And that was a starting point for me when I start to think about, hey, wait a minute, there is something wrong. You know, they use it in a different way. And Yeah, that was one point when I thought there is something dangerous. There is something on the surveillance which can be used wrong.
Le moment clé pour moi de décider de déclencher la réalisation du film de cette manière était pendant que je regardais des webcams dans l'Amérique, dans une faculté où les gens étaient assis dans un amphithéâtre, et d'un coup quelqu'un manipule le webcam et zoome sur les seins d'une jeune femme, et je me suis dit, ah tiens, là c'est une caméra qui est manipulée d'une autre façon et d'une façon qui montre que la surveillance puisse être dangereuse et menaçante.
C'est le rapport entre surveillance et voyeurisme.
Yeah, that was of course that was this the point which is behind this project, but it's not only about the surveillance, because very often people ask me, it's a film about the surveillance and so on and so on, but for me it was also kind of this kind of very special aesthetics which the internet system and webcams provides.
Bien entendu, c'est le film tourne autour de du surveillance, c'est le backstory du projet, mais aussi ce qui m'était très important, c'est de montrer justement cette esthétique qui est particulière au webcam et à l'internet.
And it just was a kind of I wanted to make an anti-essay film. You know, it's people use a voice over for talking about very philosophical things, and that I was not interested in doing it. And I just wanted to use a very simple, very directly voice from somebody. I wanted to make a very strong contrast to these cold pictures on the other hand, and this very private voice and private thoughts about how somebody is, I don't know, playing hockey and making stakes and thinking about how to enter the room or something like that. Yeah. And that was
Je voulais réaliser un film qui était anti-essayiste et qui avait pas un voix off distant que je trouve dérangeant quand il s'agit de textes philosophiques. Je voulais justement faire quelque chose de complètement différent et nettement plus simple, utilisant une voix directe, un contraste à ces images froides que j'ai trouvées sur l'internet, et le texte qui pour moi est très privé, et une voix où on entend des pensées, des choses comme jouer au sport ou faire cuire un steak.
Le film commence par la voix de votre ami dans le noir et finit également par la voix de votre ami et dans le noir, donc cet ami qui fait un journal intime pendant toute une année. Et donc il y a ce rapprochement entre des images webcam très anonymes, très froides, et cet aspect très chaud, très personnel de la personne qui se livre. Le film finit sur une phrase qui parle de regarder les feuilles d'un arbre bouger lentement dans le vent. Pour vous, regarder ce film, c'est regarder les feuilles d'un arbre bouger lentement dans le vent?
Yeah, I was interested in it was mostly for me, it was like the light, what was mostly the moment when I took the pictures, you know, it was like old photography thing, you know, you have to wait for the light to make a picture. And I was looking, you know, in the morning and at the moon and in the night on the webcams, and there were mostly just one moment where the picture was really interesting for me. And that's maybe something like, you know, this phrase of him talking about leaves on the tree. Yeah. Yeah, I think it's something like that. Yeah, it's something about the light and space.
Pour moi, c'était une question de lumière et d'espace. Quand je sélectionnais des images sur l'Internet, je le faisais parfois très tôt le matin ou tard la nuit, quand il y avait la lune déjà. Et pour moi, c'était une question de vouloir refléter la phrase donc, que vous venez de citer et explorer cette question d'espace.
Merci beaucoup, Dariusz Kowalski, d'avoir participé à cette émission. Merci également à Philippe Warnel et à Fanny Zaman. Voilà. Merci, Eve, pour la traduction.
Merci.
Merci, Juliette, pour la chronique. Merci à Célia et à Jean-Marc Lamour. Merci à Tony, à Seb et à Djilali, qui étaient à la technique de la grenouille. À suivre à 19h, un spécial, de 19h à 21h, un spécial dubstep avec Manu Dub sur la grenouille. Et ensuite, à 21h, la diffusion des aveugles de Brice Canavo, une pièce radiophonique lue et jouée par des enfants et des adolescents aveugles pour la plupart autour d'un texte de Maeterlinck. C'est une programmation proposée à l'occasion du FID par Étienne Noiseau et Floriane Pochon de l'atelier de création de production sonore Euphonia. On peut retrouver toutes les émissions du FID que nous avons réalisées depuis mercredi dernier jusqu'à aujourd'hui en podcast sur le site de la Grenouille, grenouille888.org. On se quitte avec un extrait du dernier Bachung, Bleu Pétrole. Merci d'avoir été à l'écoute. Salut.
J'ai des doutes sur le changement d'heure en été. J'ai des doutes sur qui coulent les bateaux, qui jettent les pavés. Des réserves quant à la question d'angle pour le canapé. J'ai des doutes sur la notion de longévité. Sur la remise à flot de la crème renversée. J'ai des doutes, est-ce que vous en avez? Est-ce que vous en avez des doutes, des idées, des hommes, des carrés, des allongés? Est-ce que vous en avez des devises, des pensées, de l'assise du cœur? J'ai des doutes sur l'heure à laquelle tu viens de rentrer. La certitude de t'avoir si fort désiré. J'ai des doutes, est-ce que vous en avez? Aux parties zombies, je milite mais je m'ennuie. J'ai la détente sensible, l'étiquette fragile, le champagne douce. J'honore la passion bulle sans une seule virgule. Est-ce que vous en avez? Est-ce que vous en avez des doutes, des idées, des rêves de douceur éveillés? Le goût du danger, des routes à prendre ou à laisser. Est-ce que vous en avez du réseau des rougeurs, des nerfs d'acier? Est-ce que vous en avez déchiffré les affaires, les valises, les noyautés, les médias, les cerises, coupé court à l'appel de la brise et livré les secrets des banquises? Est-ce que vous en avez? 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 Est-ce que vous en avez?